Alors, une proposition de loi entend lutter contre la gangstérisation de la France. On en parle tout de suite avec l'auteur de cette proposition, Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne. Nathalie Goulet, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors, on va parler de votre proposition de loi, mais avant toute chose, pouvez-vous le rappeler le contexte dans lequel se situe ce texte ?
Alors, après un travail très important depuis de nombreuses années sur la fraude et l'évasion fiscale, et aussi sur le terrorisme, aux confins des deux, le Covid étant venu, j'ai travaillé sur le financement du terrorisme, et donc finalement sur des outils de criminalité organisée, puisque c'est la même matrice de fabrication d'argent sale. Et puis l'année dernière, il ne vous a pas échappé qu'on a eu une belle success story avec le narcotrafic au Sénat. Mais la criminalité organisée, c'est autre chose que le narcotrafic.
Alors, qu'est-ce que ça recouvre, pour bien comprendre ?
Alors, ça recouvre tout un tas de délinquances qui vont du trafic de migrants, 5 à 7 milliards, la contrefaçon, plus de 5 milliards, le trafic de cigarettes, la fraude aux finances publiques, le trafic des marchés publics, la corruption, le trafic d'or... c'est-à-dire toute une production d'argent sale qui ensuite doit être blanchie pour intégrer les circuits de criminalité organisée. Évidemment, la drogue en fait partie.
Bien sûr.
Mais les délinquants sont pluridisciplinaires. Ils font un peu de trafic de drogue, un peu de trafic de migrants, un peu de trafic d'or, d'exploitation sexuelle, etc. Donc si vous voulez regarder la criminalité par le prisme unique du narcotrafic est une erreur. C'est une erreur stratégique, c'est une erreur aussi pour le champ des poursuites et aussi pour j'irais même l'esprit qui anime les services de poursuite. Il faut une vision financière des infractions.
D'accord.
Et donc l'idée, ça a été de dire, bon, il n'y a pas que le narco, bon, là, il y a tout le reste. Et puis, il ne vous a pas échappé que le texte sur le narco crée un parquet criminalité organisée et non pas un parquet narco. Et ça, ça a été une demande express. Voilà. Donc, désormais, on a demandé donc, au groupe centriste une commission d'enquête sur la criminalité organisée pour compléter le dispositif du texte sur les narcos qui était évidemment très important, mais qui était partiel. Et puis, avec mon collègue Raphaël Daubé, qui a présidé cette commission, nous avons auditionné énormément. Nous nous sommes déplacés dans les institutions internationales, chez Interpol, chez Europol notamment, où on ne va pas assez. Ils font un travail remarquable. À ce point précis, je voudrais dire que nos services, police, justice, renseignement, font un travail remarquable.
D'accord.
Là, il faut dire que le travail est exceptionnel, qu'on a des services formidables. Ils sont un peu à l'os. Mais
il faut donner des moyens.
Ah oui,
l'objet de votre proposition, c'est un peu au-delà du constat que vous avez fait dans le rapport, c'est de mettre en œuvre maintenant les recommandations que vous avez formulées.
C'est exactement ça, avec une vision financière des infractions. Alors, pour tout vous dire, on a donc fait une cinquantaine de recommandations. Dans le contexte législatif, il ne vous a pas échappé qu'avoir le temps de voter un texte de 50 articles, ce n'est pas tout de suite.
Tout à fait.
Si on pouvait déjà voter un texte tout court, ce serait déjà pas mal. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs niveaux dans la proposition de loi qui commencent, si vous voulez, par des choses assez simples, de rustiner des éléments manquants à nos dispositifs.
Comme quoi, par exemple ?
Les entreprises n'ont pas à déclarer les comptes qu'elles ont à l'étranger.
Pour vous, c'est une aberration ?
N'importe quel citoyen doit déclarer le compte qu'il a à l'étranger et pas les entreprises. C'est rien du tout, c'est une petite faille. Bon, le manque de pouvoir des grèves des tribunaux de commerce. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un livre blanc des tribunaux de commerce sur la lutte contre le blanchiment, que les dispositifs n'ont pas été mis en place et que un des gros vecteurs du blanchiment sont les entreprises éphémères, c'est-à-dire ces entreprises qui sont constituées uniquement pour faire du carrousel de TVA, etc. Enfin, vos auditeurs connaissent ça aussi bien que moi, et vous encore mieux. Donc ces entreprises éphémères, c'est vraiment une plaie, c'est un cheval de Troie de la criminalité.
Le but, c'est de faire une entreprise criminelle.
Voilà.
C'est clair.
Ben voilà. Et puis surtout, une entreprise qui va carotter de la TVA, qui va faire du dumping sur les territoires, qui va faire de la fraude à l'URSSAF, qui va utiliser du cash pour payer ses salariés, qui va donc blanchir deux fois. L'entreprise éphémère, c'est vraiment un cheval de Troie, vraiment des dispositifs. Et donc, pour éviter un certain nombre de malentendus, si j'ose dire, il faut donner plus de pouvoir aux greffes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent contrôler l'origine des fonds, l'identité des porteurs de parts, vérifier que les... Or, ce type de contrôle se heurte à la simplification. Voilà. Et donc, nous pensons, avec mon collègue et les collègues de la commission qui ont adopté le rapport à l'unanimité, qu'il vaut mieux différer un tout petit peu la délivrance du CABIS, qui est par ailleurs le permis de conduire de l'entreprise, pour avoir les vérifications qui s'imposent. D'autant que vous savez très bien que si les entreprises en formation ont des activités, elles pourront reprendre le jour où elles seront immatriculées les actions qu'elles ont faites pour le compte de l'entreprise en formation. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de... Donc, il vaut mieux attendre un peu et vérifier. Et donc, on propose un certain nombre de dispositifs pour avoir plus de pouvoir des greffes, pour pouvoir éviter cette criminalité très, très importante avec les entreprises éphémères, qui sont vraiment un très gros problème.
Alors, au-delà des entreprises éphémères, il y a aussi des dispositions pour améliorer le dispositif anticorruption, même si il y a eu des efforts faits depuis la loi Sapin 2.
Oui, mais on a considéré que les seuils étaient trop élevés.
D'accord.
Donc nous souhaitons, on a diminué par deux les seuils. Le texte, le président Larcher devra, s'est engagé à envoyer la proposition de loi au Conseil d'État.
D'accord.
Parce qu'on a trop de textes mal ficelés. Moi, j'ai aucun amour-propre d'auteur à faire vérifier mon texte par le Conseil d'État. Je pense que c'est même une très bonne mesure. Il est d'ailleurs là pour ça, pour voir si les seuils ne sont pas ridicules. Je pense que c'est très, très important d'insuffler les règles anticorruption à des entreprises qui n'ont pas les seuils de la loi Sapin.
D'accord.
Il faut que cette culture...
Créer un cercle vertueux partout.
Il faut que la culture soit plus imprégnée, plus bas.
D'accord. Et au-delà des dispositions de lutte contre la corruption, il y a aussi tout ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon également dans votre texte.
Alors ça, c'est extraordinaire. Alors, il y a un comité... Alors, pas dire du mal des gens tout de suite. Mais quand même, la contrefaçon, c'est vraiment la criminalité à bas bruit. Vous achetez une fausse chemise de marque, vous allez acheter un faux sac de marque... Certains peuvent penser que c'est de la péréquation sociale parce que vous n'avez pas les moyens de vous en acheter un vrai, et que finalement les marques de luxe ont les moyens, c'est 26 milliards par an, c'est pas rien, c'est 38 000 emplois. Mais surtout, la contrefaçon, ce n'est pas que ça. Cette année, c'est plus de 20 millions d'objets qui ont été saisis par les douanes. C'est des faux médicaments, c'est des fausses pièces détachées d'avion, c'est des fausses pièces détachées de voiture.
Donc les conséquences peuvent être graves derrière.
C'est des fausses Ray-Ban qui brûlent les rétines, c'est des crèmes solaires cancérigènes, des dentifrices toxiques, etc. Alors, évidemment, les contrefaisants facteurs se sont améliorés. On va donc avoir des étiquettes produits d'un côté et puis les produits de l'autre. Donc tout ça. Et puis vous avez la vente en ligne avec des plateformes qui, à longueur de journée, vous proposent des produits de luxe contrefaits, des vêtements, des chaussures, etc. Je vous rappelle quand même que les frères Kouachi ont financé l'attentat de Charlie par la vente de fausses chaussures Nike. Hein, je veux dire, c'est pas quand même un truc anodin. Et donc, l'Unifab, qui est le syndicat qui s'occupe de ça, extrêmement diligent et extrêmement dynamique sur ces sujets, y a une loi qui a été votée il y a quelque temps par le président du fameux comité Théodule. Ce texte n'a jamais traversé le boulevard Saint-Germain pour arriver jusqu'au Sénat. Moi, je demande que non seulement il soit repris, mais qu'il soit alourdi.
D'accord.
Voilà.
Donc on va conclure là-dessus sur ces dispositions qui concernent la contrefaçon. Je vous remercie, Nathalie
C'était
Boulet.
Trop court.
Ce sera l'occasion de vous réinviter une fois le texte adopté.
Voilà, je vais vous offrir mon livre en attendant sur le financement du terrorisme. Voilà, faites-en bon usage.
Merci encore. Tout de suite, l'émission continue. On va parler congé maladie, congé payé et arrêt maladie à l'aune de la jurisprudence.